dommage alors. J'espère que vous venez maintenant que vous allez être calme et tranquille. Je disais, j'ai la prière synodale. Chaque diocèse a fait sa petite prière. Nous voici devant toi, Esprit Saint, en ton nom nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, viens habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Sur Odos. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi et agis en tout temps, en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils pour les siècles des siècles.
Amen.
Amen. Voilà, donc, synode, synode, voilà que François est venu quelque chose. C'est un mot dont il est en train de changer le sens ou réveiller le sens pour nous déshabituer de ce qu'était un synode avant. C'est quoi? Au Concile Vatican II, il y a des textes sur le synode, on va regarder un petit peu ensemble. Mais on s'est aperçu que le concile précédent, c'était Vatican I, un siècle avant, 1875. Et 62-65, il y a déjà 2000 évêques, aujourd'hui il y en a 6000, comment on va faire? Est-ce qu'on peut encore faire un concile écuménique? Et pourtant, un rassemblement des évêques de toutes les nations, c'est important, il faut arriver à faire quelque chose. Alors du coup, le pape Paul VI a eu cette idée en disant, bah, c'est pas sûr qu'on pourra refaire un concile écuménique dans les 10 ans ou les 30 ans à venir, il y a déjà plus de 60 ans, hein, précédemment. Mais on va instituer le synode. Donc dans nos têtes, jusqu'à ces dernières années, il y a l'ultime changement au réveil, que vient de faire le pape François. Les synodes, c'était des réunions qui avaient été programmées pour tous les 3 ans, avec des représentants des évêques de toutes les nations, en proportion. Au Brésil, ils arrivent à 12, en France, on arrive à 4, au Brésil, de l'océan Indien, avec 1, enfin, ça dépend du nombre d'évêques, parce que, puisque pas tout le nombre de monde, c'est le Brésil. Donc c'est un peu en proportion. Ça fait quoi? 200-300 évêques? Un petit concile, quoi. Toutes les nations sont représentées, et puis on se donne un sujet. Voilà. On a eu des sujets comme ça, en 71 sur le sacerdoce, en 74 sur l'évangélisation, en 77 sur la catéchèse. Un des grands animateurs, c'était le cardinal Wojtyła. Et comme il a été élu pape l'année d'après, c'est lui qui a eu à faire ce qu'on appelle l'exhortation apostolique post-synodale. C'est-à-dire que une fois qu'a eu lieu ce synode, où on n'a pas traité de tous les sujets comme dans un concile, on a traité un sujet. Alors le pape, l'année d'après, il publie une exhortation. Donc, voilà ce que j'ai entendu de mes frères évêques, et voilà donc ce que j'ai envie de vous dire. Par exemple, 2008, synode sur la parole de Dieu. Benoît XVI, on connaît bien Benoît XVI, en 2005, synode sur l'Eucharistie. En 2008, synode sur la parole de Dieu. Et après, il fait, lui, une vraie encyclique, quoi. Il redonne à toute l'Église le fruit de ses réflexions. Donc un texte splendide sur la parole de Dieu, par exemple, c'est Verbum Domini, en 2010 même, après, un an et demi, 2 ans après, le synode sur la parole de Dieu. Donc on en a sur des quantités de sujets, sur la formation des prêtres, sur le ministère des évêques, la grosse majorité, pour l'instant encore, rédigée par le pape Jean-Paul II. Pourtant, quand même, les premières exhortations de Paul VI, elles ont marqué. En 1974, il y a ce synode sur l'évangélisation. Et lui, le 8 décembre 1975, il publie l'exhortation apostolique Evangelii Nuntium. Énorme. Très, très, très impressionnant. Très beau texte, ressaisissant. Le travail qui a été un punch incroyable, si vous voulez, pour relancer le mouvement d'évangélisation dans l'Église. Encore une fois, en 77, le secrétaire, c'est le cardinal Wojtyła qui anime tous les débats. Puis il est élu pape, c'est lui qui fait l'exhortation apostolique sur Catechesitra Dandae. Donc il est élu en 78 et il publie le texte en 79. C'est un Et donc, on en a beaucoup comme ça. Une qui a fait du bruit aussi, c'était celle sur le sacrement du pardon. Réconciliation. Reconciliation et pénitentia. En 83. Et donc, après, le pape, Jean-Paul II, il fait un texte d'exhortation. Et à partir de là, en France, on voit que la majorité des évêques disent bon, faut arrêter les exécutions collectives, quoi. Et revenir à la confession personnelle pour que les péchés soient dit explicitement et puis après pardonner à chaque personne dans une rencontre personnelle profonde. C'est quelque chose pas forcément facile à dire, mais qui a été un point marquant dans l'histoire de l'Église de France. En 94, par exemple, il dit qu'il faut faire un synode sur la vie consacrée, la vie religieuse. Toutes les formes de vie consacrées, les instituts de vie consacrée, les contemplatifs, les religieux actifs. Et en 95, donc c'est Jean-Paul II qui est le pape, il fait une exhortation apostolique postulale vita consecrata. C'est-à-dire, c'est quoi la vie consacrée? Il donne la réflexion actuelle de l'Église sur un point. Est-ce que c'est un petit concile? Bon, oui, si on peut dire. D'abord, parce que c'est l'épiscopat en réduction, mais bien représenté quand même. Et ensuite, parce que ce n'est qu'un sujet. Et donc, en fait, quand on regarde tout ce qui a été fait, le concile s'est terminé en 65, donc tous les textes du concile restent encore profonds, normatifs pour nous aujourd'hui, bien entendu, mais avec cette institution synodale, on n'est pas trop en manque, vous voyez, de concertation de tous les évêques du monde, parce qu'ils se sont réunis dans différents synodes, grosso modo tous les 3 ans, pour réfléchir avec le pape, autour du pape, représentant l'ensemble de l'épiscopat mondial, sur un thème. Et ça nous a donné une belle réflexion sur le sacerdoce, sur l'épiscopat, sur la vie religieuse, sur l'évangélisation, sur la catéchèse, sur ces thèmes que je viens d'évoquer. C'est quand même beaucoup de choses. Voilà. Donc, un vrai travail, si vous voulez, qui soit synodal. C'est-à-dire, on fait chemin ensemble. On donne le chemin et synode ensemble avec. Donc, toute l'Église est en chemin, et donc on essaye de réfléchir sur ce thème pour le réveiller, pour le regarder, le renouveler d'une certaine manière. C'est un beau travail de l'Église. Sur des sujets très fondamentaux, comme je le disais, l'Eucharistie, la parole de Dieu, alors là c'est vraiment la base de la base, comme sur un sujet plus particulier, comment on forme les prêtres aujourd'hui, quoi. Alors, comment il faut faire, comment il faut s'adapter, etc. Donc, on va voir des choses sur l'ensemble de la vie de l'Église. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de concile? Aïe, c'est une question qu'on peut se poser. Certainement, il y aura encore des conciles. Enfin, Vatican II, c'était déjà un monstre. Le 21e concile œcuménique, faire un concile œcuménique aujourd'hui, c'est-à-dire le rassemblement de tous les évêques du monde autour du successeur de Pierre, pas très facile à organiser. Pourquoi pas? Il avait fallu un espèce de tout fou comme Jean XXIII pour réussir le coup. Picouze l'avait déjà prévu. Et il souhaitait le faire. Il y avait tellement d'obstacles dans l'organisation que finalement, il est mort avant d'avoir décidé. Alors Jean XXIII, il a dit, bon, moi je le fais tout de suite ou ce ne sera jamais. Donc il est élu en octobre 58 et il mûrit son truc. Et le 25 janvier 59, c'est-à-dire tout de suite, le pape tous les 25 janvier, il va à Saint-Paul hors les murs à la fin de la semaine de prière pour l'unité. Avec les autres, quoi, les Saint-Paul missionnaires. Et à la sortie, il dit, et c'est pourquoi j'ai décidé de convoquer un concile œcuménique. Boum. Ça a fait un peu de rabuche. On a fait énormément de travail, on a ressorti plein de gens. Ça a été un souffle d'espérance incroyable. Quoi, parce qu'à ce moment-là, on a sorti les théologiens de leurs propres travaux, de leurs bouquins comme Congar, de Lubac, etc. On les a fait travailler en commission ensemble. Le Bernard Ratzinger, par exemple, il disait, c'est moi j'étais tout jeune théologien et je me suis trouvé à côté du père de Lubac. J'ai vu que le père de Lubac, il lisait mes écrits, mes articles, et tout. Je me dis, oh là là, c'est formidable. Enfin, ça a donné un moment de joie, si vous voulez, pastoral, théologique à toute l'Église qui était assez considérable. Du coup, c'est bien, on est content de cette institution synodale. Elle touche des sujets importants, elle les renouvelle. Donc, on est heureux de cela. Et en même temps, on se pose une petite question. Il n'y a plus de concile. Donc, qui c'est qui va avoir l'audace de faire un concile avec 6000 évêques maintenant? On ne sait pas trop. Les synodes, ça ne s'arrête pas à ça. Il y a aussi des synodes particuliers quand il y a beaucoup de souffrance. En 90, le pape, il dit, ben non, je vais faire un synode sur le Liban. J'ai besoin que toute l'Église soit concernée par la souffrance du Liban. Ce n'est pas uniquement avec les évêques libanais. Donc je fais un synode sur le Liban, avec tous les évêques du Liban, et puis j'en appelle d'autres. Aidez-nous, conseillez-nous pour qu'on arrive à refaire de ce pays si important et unique et tout, un peu une terre de paix, alors qu'il est toujours en bagarre. Il y a d'autres échéances. Par exemple, vous savez que Jean-Paul II, dès le début de son pontificat, il sait, il sent, il dit même parfois qu'il a été élu pour faire entrer l'Église en troisième millénaire. Il est fasciné par l'année 2000, etc. Et donc, il voulait faire de l'année 2000 une année d'un grand, grand, grand jubilé, y compris matériellement. Il a fait un jubilé à Bracadabran du 1950e anniversaire de la Rédemption en 83-84. Alors là, il fallait le trouver. Et après, il a dit, c'est parce que je voulais montrer à la ville de Rome qu'elle n'était pas prête pour le synode de l'an 2000. C'est-à-dire que c'était la pagaille, rien n'était organisé. Et donc, moi je me rappelle, j'étais jeune prêtre, j'étais allé avec plein de jeunes en 83-84, sur un grand museau, encore le plus jeune, c'est quoi le nom, on devait marcher n'importe où, comme on pouvait. Mais la ville de Rome, du coup, s'est mise en ordre de marche, toutes les églises ont été refaites, énormément de choses ont été installées, qui fait le grand jubilé de l'an 2000, a été quelque chose de formidable. Préparation matérielle, certes, mais aussi préparation ecclésiale. Donc il a fait un synode par continent. 91 synodes de l'Europe, 94 synodes de l'Afrique, synodes de l'Asie, etc. Et comme le synode de l'Europe n'avait pas marché, pourquoi il n'avait pas marché? Parce que c'était juste après la chute du mur de Berlin en 91, je crois que c'est donc c'est la première fois que les évêques de l'Est et de l'Ouest se retrouvaient, et en fait on a parlé énormément de ça. Donc il a dit qu'à fin de dire, j'ai fait un deuxième synode sur l'Europe, et il a fait un synode sur l'Europe en 99. Et après, il a fait pour chacun une exhortation apostolique. Moi qui suis le successeur de Pierre, je l'aime l'Europe et je vais lui dire cela. Ecclesia in Europa, Ecclesia in Oceania, Ecclesia in Africa en 95, etc. Donc vous voyez comment un synode peut concerner toute l'Église, toujours. Même quand ça va être sur l'Europe, on invite évidemment des évêques européens, mais on en met d'ailleurs aussi. Qui sont représentants et qui disent l'Europe, est-ce que vous vous rendez compte aussi de la place que vous avez à l'intérieur? Pourquoi nous nous sentons méprisés, oubliés, ou ci, ou ça, etc. Donc, une réflexion qui est catholique, même si elle est sur un sujet qui ne l'est pas, sur un sujet qui est précis. Quoi. Qu'en est-il de l'Europe, qu'en est-il du Liban? Ça, c'est pas universel. Pourtant, c'est une réflexion de l'Église catholique sur un problème et elle doit être tout entière concernée par cette question. Voilà où on est. Donc, quand à la fin du pontificat de Benoît XVI, il y a un synode sur la nouvelle évangélisation, et bien après, c'est le pape François qui a eu sa première, à part l'encyclique sur la lumière de la foi, qui était vraiment quasiment empruntée au pape Benoît XVI, il a fait donc Evangelii Gaudium. La joie d'évangile, la joie d'évangélisation. Ça a été son premier grand texte, quoi, dans lequel il a cité beaucoup des choses de ce synode et dans lequel il s'est donné lui-même à connaître avec sa première grande parole sur l'évangélisation, hein, sur la foi et sur la toute l'Église. Voilà un peu l'ensemble de ses travaux synodaux. Pourtant, ça ne correspond pas à ce qui était dit dans le concile. Ah, pour préparer cette exposé, je me suis plongé dans les textes du Concile. Et dans le Concile, on voit Agentes, c'est-à-dire le texte sur l'évangélisation des nations, Christus Dominus, le texte sur les évêques. Ce n'est pas seulement ça qu'on dit. Au numéro 5 de la Constitution sur les évêques. Des évêques de diverses régions du monde apportent une aide plus efficace au pasteur suprême au sein d'un conseil qui reçoit le nom de synode des évêques. Avant. C'est pas une réunion une fois tous les trois ans où on consulte les autres. Le concile demande, Christus Dominus 5, qu'il y ait à côté l'administration vaticane, avec les chefs de dicastère et tout, un peu comme un conseil des ministres. On voit que c'est bizarre, c'est un conseil des ministres qui ne se réunit jamais. Donc chacun a son truc à lui, le pape commande tout ça, ça nous fait toujours un peu drôle parce qu'on a l'impression, on en a parlé un petit peu souvent là-bas, que c'est complètement cloisonné. Mais là, en tout cas, le désir du concile, c'est un conseil qui reçoit le nom de synode des évêques et qui apporte une aide plus efficace au pasteur suprême. Au numéro 36, dès le début, les évêques associent leurs forces, une communion de charité fraternelle et un souci de la mission universelle, pour ça, voilà, le bien commun de l'ensemble des églises et de chacune d'elles. Donc, là, on voit approcher cette idée de l'atmosphère synodale, de l'habitude synodale. Il faut donner une nouvelle vigueur à cette vénérable institution des conciles et des synodes. Grosso modo, un concile, c'est très compliqué, et il faut changer ce truc-là. Et donc, il faut faire ces synodes. On a fait ces synodes. Il faut que ce soit une aide plus efficace, plus adaptée pour la manière de vivre dans l'Église, en particulier la discipline de l'Église, pour le progrès de la foi, pour l'aide et l'entraide entre les Églises, etc. Et dans la Constitution, c'est pas une Constitution, dans le décret conciliaire ad gentes, il dit au numéro 29, un conseil stable n'existe pas. L'évêque pour l'Église universelle, avec le souci spécial de l'activité missionnaire. Pour que l'Église ne perde pas son punch missionnaire et qu'elle garde toujours ce tuf, cette énergie, il faut qu'on fasse ce synode. Ça, c'est marrant. Parce qu'en fait, ça n'avait pas encore été fait. Et tout d'un coup, quand arrive le pape François, il dit, bon, ben moi, je vais prendre 8 évêques autour de moi et ils vont être mon conseil perso, quoi. Drôle de conseil perso, parce qu'ils prennent l'archevêque de Chicago, de Bombay, de Munich, d'Australie aussi, là. Ils sont autour de lui, c'est 8 évêques, plus un ou deux de la curie, le cardinal Bertello, qui a été toute sa vie dans le corps diplomatique et dans l'administration centrale du Vatican. On comprend bien pourquoi, parce qu'il dit, mais le Vatican, c'est devenu une espèce de bureaucratie fermée sur elle-même, et après, il y a les églises du monde entier qui vont être à Madrid, à Paris, à Londres, etc. Et il faut que ça passe là-dedans. Il faut arriver à refaire la communion et la collaboration dans tout ce monde. Alors, ce qu'on appelle son CV de son affaire, son petit conseil de 8 ou 9 bons hommes autour de lui, très intéressant. Il les réunit une fois tous les trimestres, il travaille 2 jours avec eux, et on parle ensemble de toutes les questions de la vie des églises. Et il a besoin qu'il y ait une voix qui arrive d'Amérique latine, une autre qui arrive d'Amérique du Nord, une autre qui arrive de l'Inde, une autre qui arrive de partout, pour être son conseil. Ça correspond davantage au texte qui est là dans le concile comme un vrai désir. Ça existe chez les orientaux. Il y a un synode patriarcal, à côté du patriarche de Constantinople, à côté, moi, ce que je connais le mieux, c'est le patriarche des Chaldéens. Donc eux, ils ont leur synode autour d'eux. C'est-à-dire, ils ont régulièrement réunion de tous leurs évêques, donc tous les évêques chaldéens catholiques, ils vont autour du canal Sacro, en général, et puis on discute avec lui des problèmes de notre Église dans le monde entier. Donc là, il y a un espèce de gouvernement qui est là. On voit que c'est ce que cherche le pape François. Et tout d'un coup, il dit, bon, alors, on va faire un synode sur la synodalité. Et c'est pas mal. Pour voir ce que c'est. Pour comprendre vraiment ce que c'est. Donc ça, c'est le projet 2023. Seulement cette fois-ci, il faut vraiment que ce soit toute l'Église qui marche ensemble. Par conséquent, vous avez commencé, bon, dans votre dossier, là, vous avez dit ça, le 17 octobre 2021, on a fait ça. Il y a la première réunion comme ci, puis la deuxième réunion comme ça. Et voilà ce qu'on doit faire pour ces différentes réunions. Ce qui nous est demandé, donc moi, par exemple, j'ai regardé la piste de travail qui a été donnée à Rennes. Alors, vous ferez 2 réunions, une avant Noël, une après Noël. Vous rendrez votre copie à Péja, là, je vais la rendre maintenant, avant la carême. Alors, premièrement, vous ferez une prière à l'Esprit Saint, puis un temps de partage de la parole de Dieu. Alors là, on ne vous dit pas, sur l'évangile dimanche suivant, vous pouvez choisir. Enfin, très précis, quoi. Donc, toute réunion commencera comme ça, par une prière à l'Esprit Saint. Ensuite, que faire pour marcher ensemble? Pour que notre Église, notre Dieu, c'est peut-être la même chose à Tours, je n'ai pas eu les thèses de Tours, j'ai tout ce que j'avais sous la main. Nous devons marcher ensemble, nous devons faire une Église synodale. Nous tous ensemble, nous devons annoncer l'Évangile dans la force de l'Esprit Saint, dans la lumière de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne se passe pas? Etc. Donc une analyse qui va être faite dans chaque diocèse. Et après, revenir à des textes de l'Écriture, c'est-à-dire réveiller complètement notre Père. C'est un petit conseil que je me permets de donner, vous savez, Il y a des prières qui sont beaucoup trop connues pour être bien connues. On ne fait plus attention à rien. Quand je vous salue Marie, on a notre Père, réveille notre Père, c'est... Ça m'a toujours frappé, d'ailleurs, tout le monde a écrit son commentaire du Notre Père. Faites ça, tiens, sinon. Hein. Vous voyez le commentaire par Saint François d'Assise, le commentaire par Saint Thérèse d'Avila, le commentaire d'Herculien, Origène, dès les premiers. Moi, souvent, j'ai dit ça à quelqu'un, je dis, bah, allez, mets ton commentaire du Notre Père. Trois pages, je dis, bon. Et puis, là, il commente, et puis, c'est très intéressant. Alors, on voit ce qu'il a dans la tête. Parce que des fois, on dit Notre Père, on n'a rien dans la tête. Notre Père, je veux ton gentil, ton règne vienne. Et faire cet effort de l'écrire, le réveil, la manière dont toi tu as ce chemin qui peut être fait dans une équipe, en tout cas, c'est assez intéressant. Le retour au badge, le credo, par exemple. Tout le credo dépend de la première ligne, c'est pas la peine de me raconter la suite, voyons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Ben, ça me suffit, c'est pas la peine de me raconter la suite, parce que si c'est un Père Tout-Puissant, et que pour ses enfants ça va mal, ben, il va se fatiguer pour eux. Ou si ça va très mal, ben, il va tous les moyens possibles. Par exemple, donner son fils bien-aimé, alors il va envoyer son fils. Alors quand il va se passer ceci et cela, ben, à travers, après il enverra l'Esprit Saint. Tous les grands textes chrétiens dépendent de la première ligne. Et petit à petit, le voir à partir de ça, si vous voulez. Là, je crois qu'il y a un véritable effort qui est à faire dans cette fonction synodale, qui est de nous réveiller les uns les autres pour que notre foi ne dorme pas et qu'on ne récite pas son credo ou son notre Père sans prendre le temps de le réveiller, de le bouger, de le faire revivre, etc. Et alors, la deuxième rencontre, celle que Arène Monseigneur Bonnevin propose pour entre nous et l'unité Arène, c'est l'heure des décisions et de la participation. Vous pensez qu'il faut décider quoi pour que ça marche dans notre paroisse? Vous pensez qu'il faut qu'on décide quoi pour que ça marche dans notre diocèse? Ou dans l'Église universelle, d'ailleurs. Et deuxièmement, vous apportez quoi? Décision, participation. Après, il met un texte très très intéressant. Je peux vous conseiller la lecture si vous voulez la refaire après chez vous. Posément, qui est très mystique et très concret. On lit souvent au baptême, d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Donc Éphésiens 4, c'est que Paul il fait toujours un enseignement dogmatique, puis ensuite une exhortation un peu morale, spirituelle. Quoi. Je vous exhorte donc, frère, moi le prisonnier du Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, et douceur et patience. Et supportez-vous les uns les autres avec charité. Bon, tu as une famille devant nous, on va tellement tout qu'on écoute bien. Appliquez-vous à conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Après, les gens en font un peu moins attention, car il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, une seule espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, dans la même chanson. Un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Voilà, c'est pas ça. Et puis après, il y a ce mot-là qui est assez mal traduit tout le temps. C'est lui qui a fait la grande variété dans l'Église en donnant à toi ceci, à tel autre tel charisme, troisième ceci et cela. Et c'est pour ça qu'il y a des prophètes, il y a des évangélisateurs, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, etc. Et, alors là, il y a un mot majeur, il a donné à chacun l'équipement en grec catharchismos. Ici, ils ont traduit organisant les baptisés. C'est vraiment pas juste, c'est pas le bon Dieu qui organise son Église. C'est le bon Dieu qui, par les charismes qu'il donne à chacun l'équipement dont il a besoin pour tenir cette responsabilité. Parce que nous allons être ensemble. Donc il faut travailler. Donc quand on travaille, on ne va pas forcément toujours bien se passer. Mais il faut que je donne à chacun l'équipement dont il a besoin pour qu'ils arrivent à croiser leurs efforts et leurs richesses et leurs possibilités afin de faire cela. Donc là, je vois, et à mon avis, c'est un très bon choix, qu'il recommande aux chrétiens de son diocèse un temps de prière long sur ce passage du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, pour voir que le bon Dieu prend soin de son Église, il lui donne l'équipement dont elle a besoin pour qu'elle puisse accomplir sa mission. C'est vraiment quelque chose de bon et de précieux. Chaque diocèse a fait comme il voulait, comme il pouvait, pour l'organisation de son synode. Donc voilà le point où le travail, où nous en sommes. Est-ce que ceci a une racine évangélique et biblique? Ben oui, en fait, le mot synode, il est dans l'évangile. Vous pourrez me dire, vous auriez dû commencer par ça. C'est assez joli. Mais vous savez comment c'est traduit dans nos Bibles?
la caravane.
C'est très joli. Donc le signe d'IA, il est là. Alors, c'est dans le passage de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 2. Quand Joseph et Marie repartent, Jésus avait 12 ans, vous savez. Et donc il remonte à Nazareth, on leur dit, bon, bah, il n'y a pas là, Jésus, il doit être dans la caravane. Il doit être dans le synode. C'est le mot tel qu'il est là, c'est assez joli. J'aimerais bien. Voilà. Alors, ça, du point de vue ecclésiologique, c'est intéressant. En fait, notre église, c'est une caravane. Donc, on est la bande à Jésus, si vous voulez. On croit à Jésus, on est les baptisés, on a l'évangile comme charte, etc. On est sur la route vers la maison, sur la route de notre vie, sur la route de notre vie. On marche ensemble. C'est l'ordre des ordres, ça marche un peu. Il y a les gamins qui courent, il y a les filles qui traînent un peu la patte, peut-être les filles, il y a ci, il y a ça, etc. Tout ça va gentiment. Je trouve que c'est assez beau. Et redonner cette atmosphère synodale à l'Église, je pense que ces images-là sont assez éclairantes pour nous. Du coup, le pape François, il s'est dit, on fait des synodes, mais l'Église n'est pas synodale. On fait des synodes qui sont avec des évêques bien représentants du monde entier, très 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 bien organisés, où je participais à celui de 2008, par exemple, sur la parole de Dieu. C'est vraiment passionnant, quoi. Donc, il y avait 300 évêques, il y avait quelques spécialistes de la Bible, de son annonce dans différents endroits. Il y avait les témoignages du religieux d'Africaine, de l'Océanie, de ci, de ça. Enfin, tout ça très beau. Et puis, super bien organisé. Et on avait l'impression qu'on était à un congrès très solennel de l'Église catholique sur un sujet central. Mais j'entendais pas le mot synode. Je n'avais pas l'impression qu'on était la caravane en marche.
Alors après, René Vasseur nous a donné un texte splendide, très très beau, à lire, Verbum Domini. Mais je pense que c'est ça dont se rencontre François. Et François, il dit, bah, écoutez, puisque c'est un désir du concile, et qu'on a fait beaucoup, mais pas exactement comme le concile voulait, on va faire un synode sur la synodalité. Alors, un synode sur la synodalité, évidemment, là, du coup, les choses changent. Parce que, on va dire au pape, le passage de, que je disais tout à l'heure, là, du numéro 5 de Agen, qu'est-ce qu'il fait ? Des évêques de diverses régions du monde, selon des normes établies par le pontife romain, apportent une aide plus efficace au pasteur suprême au sein d'un conseil qui. Alors, est-ce que mon petit conseil des huit, qui est un conseil que j'ai fait pour moi, et avec lequel il travaille, vous le savez évidemment, c'est le synode, et pourquoi ne pas remettre ça sous la demande quoi, du concile ? Est-ce qu'on va le faire ? Évidemment, il n'y a pas quorum. Après cette synodalité, le fait de marcher ensemble, et de comprendre qu'on est la caravane de la parole de Dieu qui marche à la Touraine, qui marche en France, qui marche en Europe, etc. Comment ça se passe ? Comment collaborons-nous ? Comment mettre tout le monde un peu dans cette marche-là ? Comment accueillir les nouveaux qui arrivent ? Comment faire attention à eux ? Et faire cette route véritablement commune. Plusieurs fois, le pape François il a parlé là-dessus. Il a dit, on est bien organisé. On prépare bien les baptêmes. On prépare bien les mariages. Il y a des réunions de préparation au mariage. Ils se rencontrent entre fiancés. On va voir quand il va célébrer, etc. Et puis après, quand le mariage a été célébré, on a perdu le contact avec eux. Alors, est-ce qu'on marche avec eux ? Est-ce que c'est une synodalité ? Et dans les baptêmes aussi. Pourquoi une fois j'ai vu des baptêmes d'adultes ? Et ils m'ont dit, c'est incroyable qu'est-ce qu'on s'est bien occupé de moi dans le temps du catéchuménat. On avait des règlements comme ci, des règlements comme ça. Et pendant 2 ans, et ceci et cela. Et du jour où j'étais baptisé, fini. J'allais à la messe, il n'y a personne qui me disait bonjour. Et du coup, ils étaient assez blessés. Alors, il y en a quelques-uns qui avaient l'énergie de se battre. Absolument, très bien. Mais c'est vrai qu'il y a un drôle de problème là-dessus. Et pour moi, ça touche aussi à la question de la synodalité. Aussi, donc, à l'intérieur de la vie d'un diocèse, aussi à l'intérieur de la vie d'une paroisse. Donc, l'évêque va s'interroger sur son propre conseil, pour que ce ne soit pas une espèce de préfecture catholique, quoi, un évêché, mais que ce soit véritablement synodal. C'est-à-dire, il y a là un pasteur qui marche au milieu de son peuple, qui fait partie de la caravane, qui discute avec les petits, avec les grands, avec les vieux, avec les intellos, avec les pas intellos, avec ci, avec ça, avec tout le monde, parce que nous marchons ensemble. Et il est nécessaire que cette conversation circule et sur la continent. Qu'est-ce que c'est la vie synodale dans une paroisse? Ça aussi, c'est très important. Alors, dans une paroisse, on a un curé, il est potentat de village, et c'est lui qui dirige tout, etc. Oui, il est responsable, le pasteur. Comme dans l'Église universelle, on dit qu'elle est synodale, et il y a le pontife suprême qui est le successeur de Pierre, et il a une véritable autorité. Donc, comment allons-nous vivre avec lui qui a cette autorité du successeur de Pierre à l'intérieur de l'Église catholique pour que l'Église catholique soit synodale? C'est pas, alors, le problème, c'est que tout ceci dans nos têtes est un peu pité par les conflits de pouvoir, par la difficulté d'admettre les uns les autres, etc., etc. Et nous, nous savons qu'il y a un pasteur, puisque Jésus a dit à Pierre que Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, soit le pasteur de mes brebis, malgré ce péché, cette prison. Hein. Il a dit, bah, c'est un mauvais quart d'heure. Hein. Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? C'est merveilleux, parce qu'il y a des gens juste à côté. Jean, il avait été fidèle à la croix, on ne dit pas vraiment. Vous savez comment il s'en sort, Pierre? Il dégringole trois escaliers. Premièrement, il fait comme s'il n'avait pas entendu le comparatif. Donc dans sa réponse, il n'y a pas l'autre. Deuxièmement, il change le verbe. Et alors, la traduction parfois le donne, la nouvelle le donne un petit peu. Au lieu de dire « je t'aime », parce que s'il avait aimé, il aurait été fidèle, il dit « je t'aime bien, je suis attaché à toi ». Ça, c'est vrai. S'il avait véritablement aimé, il n'aurait pas renié. « Je t'ai renié, mais quand même, je te promets, je suis attaché à toi ». Donc deuxième escalier qui dégringole. Et puis troisième, au lieu de dire « oui », je suis attaché à toi, il met la réponse chez Jésus. Oui, tu sais que je suis attaché à toi. Donc il arrive à répondre à oui minuscule. Il n'ose pas dire un grand oui, quoi, parce qu'il sait qu'il n'en est pas digne du tout. Et comme ça, il arrive à faire route avec Jésus, alors qu'il avait renié tout le monde, etc. Du coup, moi, je pense que là, il y a une très belle réflexion qui nous est promise. C'est pas, si vous voulez, à l'utilisation actuelle du terme cléricalisme, avec en plus le rapport de la SAS et tout ça, ne nous fait pas de bien. Parce que ça remet encore les choses sur une question de pouvoir. Donc que le pouvoir soit d'abord partagé, il y a des prêtres qui sont beaucoup trop cléricaux, ah oui, oui. Alors, comme il y a aussi des laïcs qui ont des défauts, je veux dire, les défauts ne sont pas exclusivement chez les prêtres, ils sont un peu partout. Donc que nous arrivions à nous corriger mutuellement, que nous arrivions à dire des choses fraternellement, et dans la synodalité, et dans la charité de l'Église, pour que nous fassions véritablement route ensemble, ça c'est important. Mais si possible, pas avec des slogans. Ouais. Si possible, véritablement, en disant, je vois que c'est la volonté du Concile, explicitement dit, et pour le pape, au niveau de l'ensemble du collège épiscopal, parce qu'il faut refaire cette unité entre Pierre et les autres, juste avant cet épisode que je citais tout à l'heure de Jean 21, même de plus que ceci, il y a cette phrase très belle, très intéressante au début. Pierre leur dit, je vais à la pêche. Et il dit, nous aussi, nous allons avec toi. Ça, c'est une phrase très intéressante. C'est-à-dire, nous qui sommes les chrétiens, nous allons avec Pierre. Cum Petro, nous sommes avec Pierre. La synodalité, c'est que nous marchons avec lui. Donc, quand Pierre va à la pêche, quand Pierre va évangéliser, etc., nous sommes avec lui, nous faisons chemin ensemble. Donc voilà le projet qui est fait. Alors après, j'ai été noté ce que j'ai vu dans différents diocèses sur les étapes proposées par l'évêque. Alors l'évêque, lui, à l'intérieur de son diocèse, il dit, écoutez, nous avons un chemin à faire ensemble. Alors vous allez le faire dans chacun des endroits chez vous de octobre jusqu'à maintenant. Et après, nous nous unirons à ce travail au niveau de l'Église universelle. Mais je veux que... Et là, j'ai noté les pistes données par exemple par l'évêque de Saint-Brieuc. Alors, il dit, premièrement, alimenter notre foi à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, ça, moi, c'est toujours le point premier. Moi, encore une fois, je pense que la parole de Dieu n'est pas connue. On connaît les petites histoires comme des fautes de vie, on connaît ci, on connaît ça, mais on ne connaît pas l'ensemble. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce matin, Seigneur Jésus, toi qui nous as dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Le prêtre, il me dit tous les jours à la messe, le chrétien, pendant tous les dimanches, il n'y en a pas un qui s'est posé la question de savoir quand est-ce que Jésus a dit ça. Pour moi, c'est dramatique. Je vais faire un test.
Vous allez faire deux péchés de colère contre moi. Faites-les gentiment. Mesdames, messieurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler d'une histoire si c'était quelqu'un qui descendait de Jérusalem à Jéricho, puis s'est fait castagner, il est refusé, un mec qui est passé, un autre qui n'est pas passé, c'est Jérôme qui entend un mec qui s'est arrêté. Ah oui, pour qui il vous prend celui-là? Moi, ça m'appartient, on connaît ça par cœur, pendant 6 ans, on l'a entendu au KT, bien sûr qu'on la connaît, la parole du bon samaritain. Maintenant, vous avez fait un deuxième péché de colère contre moi, encore une fois, faites-le gentiment. Il y en a arrêté parmi vous qui ont entendu parler. C'est un moment où Jésus, c'était une famille où il aimait bien aller, il y avait deux sœurs. Et alors, il mangeait les bonnes choses que l'une avait fait dans son assiette, et l'autre, elle était là, elle écoutait sa parole. Je chamaillais un peu toutes les deux. Pour qui me prend? Marc et Marie, vous connaissez par cœur aussi. Stop. Une fois que vous avez fait ces deux péchés de colère, je vous pose une troisième question. Qui d'entre vous sait que ces deux histoires se suivent et pourquoi l'évangéliste Saint-Luc les a mis l'une derrière l'autre? Et là, 0% de l'été. Vous voyez le problème? Le prêtre, il a ça, parce que ça va nous tomber cet année, pendant l'été. On a le bon samaritain, et la semaine d'après, on a Marc et Marie. Et on dit, aujourd'hui, je vais leur faire le bon samaritain. Il n'y a pas que le bon samaritain qui s'est couché, il y a l'hôtelier, il accueille, prend bien soin, tout est à dépenser. On doit dépenser beaucoup les uns pour les autres, dans notre paroisse, dans notre famille. On va faire un très beau sermon. Et la semaine d'après, il dit, j'ai Marc et Marie. Alors, Marc et Marie, vous comprenez? Oui, bien sûr, Marie, c'est très beau, elle écoute la parole de Dieu. Mais enfin, quand Jésus va s'asseoir à table, il sera bien content d'avoir quelque chose sur le ciel. Combien de prêtres, vous dire mes frères, la semaine dernière, on avait le bon samaritain, et aujourd'hui, on a Marc et Marie, vous voyez bien. Vous comprenez pourquoi, évidemment. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez grave. C'est-à-dire qu'il me semble, si vous voulez. L'évangile, la vie, ce n'est pas une succession de petites histoires gentilles, avec des miracles et des soucis et des cela. On n'est pas plongé dedans, on n'a pas enrichi dedans, etc. En fait, la clé d'explication de ça, c'est que quelques versets plus haut, vous avez le oui de Jésus. Oui, Père, voilà ton amour qui déferle sur le monde. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans Luc au chapitre 10. Les 62 reviennent tous joyeux parce qu'ils avaient chassé des démons.
Ouais, on a chassé des démons, etc. Je ne réjouissais pas, parce que j'ai chassé 3-4 démons, les mecs. Je me suis dit, bon, parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, voyons. Arrêtez d'être des petits vantards. Cet instant, j'ai vu très saillie de joie sur l'action de l'Esprit Saint. Bien sûr que Jésus, ce n'est pas un vantard, ça va être une belle joie. Qu'est-ce que c'est qu'une belle joie? Jésus, très saillie de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Mon Père, je te rends grâce. Tu as caché cela des sages et des savants, tu leur as donné de lui. Oui, Père, voilà ton amour qui déferle sur le monde. Heureux, les yeux qui voient ce que vous voyez, qui entendent ce que vous entendez. Il a pu raconter le bon samaritain. Donc on voit bien que le bon samaritain qui était en voyage et qui est descendu sur la terre pour nous sauver et qui s'appelle Jésus, c'est-à-dire Dieu nous sauve, c'est lui le bon samaritain. Donc Jésus, il a deux noms. Et son deuxième nom, comme vous savez, c'est Emmanuel. Emmanuel, il mange avec lui, il en parle avec lui, il vient à la maison, il discute avec lui, et voilà pourquoi le bon samaritain. Marthe et Marie, ça se suit, c'est logique, parce que Jésus et Emmanuel se sont de ces deux noms, et parce qu'il vient de dire, oui, ouvrez vos yeux, regardez, l'amour de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Bon, moi, je pense que là, on est très, très, très en dessous du niveau de théotésie. Dans la connaissance de l'écriture, dans la connaissance concrète de l'évangile. Bon, je suis d'accord qu'il faut raconter aux enfants comme des histoires, mais nous ne sommes plus des enfants. Donc, il faut les connaître, il faut savoir bien les raconter à ses enfants ou ses petits-enfants, mais il faut continuer de les méditer pour essayer d'entrer dans la logique, dans la force de cette parole, et on y est pas. Il y a beaucoup de gros bibliques, ça c'est bien, et c'est un vrai progrès. Mais je ne suis pas sûr que ça nous mette la parole de Dieu dans la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y aurait quelque chose d'autre à faire, à mon avis. Ensuite, une fois qu'on est parti de là, Dieu sait si c'est important. Je suis très content parce que dans tous les diocèses où je vois, je vois que c'est toujours premier. C'est-à-dire le renouvellement en profondeur de la parole de Dieu pour qu'enfin elle soit lue, quoi. Enfin elle soit connue et non pas comme des récits gentils. Alors à partir de là, que cette parole reçue par chacun d'entre nous circule. C'est ça qui est la synodalité. C'est-à-dire c'est le chemin que la parole de Dieu va faire dans les cœurs des uns et des autres et qui va, si vous voulez, traverser toute la vie de l'Église, la fortifier dans la crise qu'elle traverse d'ailleurs elle aussi, et nous aider à avancer ensemble dans les difficultés qui se présentent et dans cette évangélisation. Et puis après, partir à la rencontre des questions et à l'écoute des gens. Puisque j'ai ce trésor et que je sais que ça vient de Dieu et que j'essaie de le recevoir le mieux possible, et en plus je sais que c'est vraiment la vérité, alors je vais écouter les questions des gens et leurs problèmes, etc., et essayer dans la parole de Dieu de leur donner la réponse qu'ils attendent, leur dire ce qu'ils cherchent. Il y a une trentaine d'années, j'ai lancé à Paris, à Radio Notre-Dame, une émission qui s'appelait « Un prêtre vous répond ». Elle me permet chez le Giton, puis après j'ai continué plusieurs années tout seul. Après, elle s'est répandue sur RCF. Et je faisais ça le mardi soir de 11h à minuit. C'est formidable, c'est comme une prière du soir. Et j'avais des questions qui arrivaient partout. J'avais des questions pièges parfois. Mais il y avait aussi souvent des questions sincères et profondes.
C'est le générique de l'émission.
Et en fait, j'ai entendu des milliers de questions. Mais en fait, je veux le dire, les gens, ils ont une seule question à poser. C'est sûr que la vie va gagner contre la mort. Vous me faites des baragins sucrés en racontant que l'amour sera victorieux. Mais prouvez-le-moi. Je vois tellement de choses qui disent le contraire. Moi, je me suis aperçu, après il y a mille autres questions pour l'explication d'un verset, pour un sacrement, pour ci, pour ça, etc. D'accord. Il y en avait plein. Et en fait, les gens, ils ont une seule question. C'est pour ça que moi, j'ai toujours énormément envie de faire entendre le oui de Jésus dont je vous parlais tout à l'heure, dans Luc 10-21. C'est la seule fois de l'évangile où Jésus dit oui. Alors, t'as intérêt à l'écouter, hein. D'ailleurs, le oui, c'est le centre de votre vie comme de la mienne. Vous tous qui vous êtes mariés ici, votre vie, elle dépend de ce oui. Nous, elle est prête à le oui que nous avons dit, c'est absolument le pivot de mon existence. Qu'est-ce qu'il vaut, mon oui? Ah, c'est fragilité aussi. Donc moi, tous les fiancés que je prépare pas au mariage, je les mets dans Luc 10-21 et je leur dis, vous allez prier ça. Et puis ils restent, et puis ils prient ce texte, parce que vous allez entendre le oui de Jésus. Parce que c'est le oui de Jésus, c'est le oui de Dieu au monde, et vous allez dire le oui de toute votre vie. Oui, j'ai envie que vous l'entendiez vraiment. Et après, avec cette force-là, tu vas partout. Tu vas aller auprès des personnes âgées, tu vas aller auprès des malades, tu vas aller au-devant des jeunes et de leurs questions, tu vas aller comme ci et tu vas aller comme ça. Et c'est comme ça que cette église sera sillonnable. Parce que chacun a ses questions, ses difficultés, tout et tout. Et une fois que j'aurai, comment dire, intériorisé ce trésor-là, je situe dans un verset de la Bible, mais un verset de l'Évangile, parce que pour moi, je le considère comme le verset absolument central, celui-là, vous voyez. Jésus, il les voit, il se vante un peu les gars quand ils reviennent. On comprend. Mec, ils ont été envoyés en mission, ils ont chassé des démons et ça a marché. Et après, ils sont sympas. Non seulement ils ont accepté la mission, en plus, ils viennent rendre des comptes. C'est quand même bien. Mais j'ai chassé des démons, moi. Alors, là, Jésus dit, peut-être changer de ton. Qu'est-ce qu'il est bon, le bon Dieu, de devoir chasser les démons. Comme elle est belle la miséricorde de Dieu qui arrive sur la terre. Et c'est ça qu'on décrit. La Sainte Vierge Marie, par exemple. Vous imaginez la Sainte Vierge Marie disant, « Youp, tralala, toutes les petites filles juives, elles pensaient qu'elle serait la mère du Messie, elle s'est tombée sur moi, le temps, le pouvoir. » Absurde. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors ça, c'est quand même très beau. C'est exactement comme Jésus dans les mouvements. Regardez. J'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est que sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il renverse les potentats de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affaires. Elle ne dit pas un mot d'elle. Elle devient la mère du Messie, et quand elle décrit la grandeur de Dieu, elle a disparu. Oh. Ah, ça, je trouve ça fantastique. Comme, vous voyez, comme splendeur. Et pour moi, d'ailleurs, cette phrase-là, le verset qu'on chante au Magnificat, c'est le résumé de toute la Bible par la Vierge Marie. Vous voulez savoir ce qu'il y a écrit dans la Bible? Ce qu'il y a écrit dans toute la Bible, c'est que sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sous-entendu, elle sait qu'elle en est l'objet, mais elle n'ira rien de mieux. Elle décrira cette miséricorde qui sera à l'œuvre partout. De ceci aussi, nous pouvons, nous, être les témoins. Alors, voilà, moi je trouve que c'est un beau défi. Pour conclure, le pape François change le mot de synode, le concept de synodalité. On s'aperçoit que ce qui a été dit par le concile n'a pas été mis en œuvre. On se dit que ça concerne le gouvernement de Pierre et les évêques qui l'entourent, certes, mais aussi toute l'Église. Parce que tous ensemble, nous faisons ce chemin. Parce que tous ensemble, nous faisons partie de la caravane, si vous voulez, c'est joli. Et que Jésus marche là avec nous au milieu de nous. Donc quand il dit, avant que je fasse un synode sur la synodalité, vous avez déjà en parlé dans vos paroisses et dans vos diocèses, faites tourmenter tout ça, et après, on va remettre l'ensemble de l'Église dans cette dynamique, dans cette logique, voilà, dans cet état synodal. Nous sommes la caravane du mon Dieu avec Jésus qui est avec nous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et qui marche dans le monde d'aujourd'hui, comme on peut, avec des obstacles, avec cette détermination. Amen.